Moi, je suis un peu du cacheur et un. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Bourbati, au Kassanga. Je pense qu'on peut, en comprenant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui continue à vous accorder la parole. Le député de la majorité présidentielle, Christophe Lutundula, préconise l'actualisation du fichier électoral pour enrôler les nouveaux majeurs. Certains observateurs pensent que l'enrôlement de ces nouveaux majeurs risque de retarder le processus électoral. Une autre opinion estime par contre que l'enrôlement de cette catégorie d'électeurs serait plus que nécessaire. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez participer à ces débats en nous rejoignant à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien en nous appelant au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Il faut noter que Paul Badianiam assure la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie Feza Bongonda, une émission qui vous est coordonnée et présentée par J.R. Ngembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Ngembo.
Voilà, mesdames et messieurs, encore merci de votre fidélité à Radio Capi. Il faut noter qu'en 2005, une certaine opinion réclamait l'enrôlement ou encore l'identification des électeurs avant l'organisation de tous les scrutins. Et cette opinion avait même appelé au boycott contre le référendum qui a été organisé en 2005. Nous sommes arrivés en 2011. Certains observateurs et acteurs politiques ont également réclamé l'actualisation du fichier électoral et vous en souvenez, qu'il y a eu des sit-ins qui ont été organisés tous les jeudis devant la CENI. À ces jours, voilà qu'il y a d'autres observateurs qui osent les tons pour réclamer, il faut encore, l'actualisation de ces fichiers électoraux. Mais pour certains, cet enrôlement de ce nouveau majeur risque de retarder le processus électoral qui a déjà atteint une grande vitesse. Et une autre opinion estime par contre que cette catégorie d'électeurs serait plus que nécessaire. Voilà. Alors, Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, M. Gilles. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de Radio Okapi.
Qu'en pensez-vous, Maître Sonville?
Oui, par rapport à la thématique, je donne pleinement raison à M. Lutundula pour qu'il y ait l'actualisation du fichier électoral. Vous savez que, M. Gilles, il y a même une commission ad hoc, là où participe Richard Badibandi, et les autres, l'OIF, l'Européenne, par rapport même au fichier électoral. On y a constaté même 15% de doublons. Et comment est-ce qu'on peut aller à des élections transparentes, exclusives, avec ces imperfections? Là, c'est difficile. Et puis, par rapport aussi à la réciment des mineurs, des nouveaux majeurs, ce n'est pas aujourd'hui que les voix se lèvent pour que ce nouveau majeur soit enregistré. Même le président de la République, le 30 juin, a reconnu cela. Si je dis, je suis le fils du président de la République, puisque tout est coordonné par la majorité présidentielle, puisque monsieur Gilles, il n'y a pas tard qu'hier, on a encore réaménagé le calendrier électoral. Quand on a réaménagé le calendrier électoral, nous avons appris qu'il y avait une réunion samedi du côté de la MP, ils ont proposé ces réaménagements du calendrier électoral et le report même des dépôts des candidatures du gouverneur et des vice-gouverneurs. C'est-à-dire que la CENI est à l'écoute, car la majorité présidentielle, et non pas la majorité de l'opposition, et non pas la majorité de la population. Or, la CENI est là, elle doit être au milieu du village pour écouter tous les deux côtés. Nous ne comprenons pas comment est-ce que nous pouvons aller à ces élections sans qu'il y ait l'organisation. Il y a des gens qui sont déjà décédés. Il y a de nouveaux majeurs. Il y a ceux-là qui se sont déplacés des endroits. Il y a la création de nouvelles provinces. Les gens se sont déplacés, par exemple, ici, au Katanga, à Alex Katanga. Les gens se sont déplacés du Katanga pour là-bas, là où ils veulent aller postuler. Les gens se sont déplacés du Katanga pour l'Olomami, là où ils veulent aller vivre. Mais on doit utiliser ce fichier électoral pour qu'il y ait transparence, pour qu'il n'y ait pas encore de perturbations jusqu'après les élections. Nous avons besoin de la paix qui a été justement acquise par les efforts de tous les Congolais. Puisque la fin de la paix est la fin de tout un Congolais.
Alors vous dites, oui, mais d'être son vie, vous ne craignez pas, comme redoutent également certains observateurs, que c'est, l'enrôlement de ces nouveaux majeurs puisse retarder le processus électoral qui est déjà très avancé.
Monsieur Gilles, il y a belle lurette que ces réclamations ont été faites. Il y a même eu des mémorandums qui ont été déposés auprès de la CENI, même auprès du Premier ministre, même auprès de la présidence. Rien n'a été fait. Moi, je suis qu'il y a un discours, on cherche tout simplement à aller au discours. Parce que je ne pouvais pas comprendre, monsieur Gilles. Aujourd'hui, même avec les élections de gouverneur, vous avez dit qu'il n'y a pas d'engouement. Qu'est-ce que la CENI cherche? Moi, je dis que la CENI doit y aller. Il y a une fois, monsieur Gilles, j'étais passé sur votre émission. Un invité qui disait qu'elle était déjà en marche. Moi, j'avais dit qu'il a fallu que d'abord la locomotive soit visible, à avoir l'accord de l'autorité, soit disant que cette locomotive est en bon marche et que les rails soient en état. Et où est maintenant la locomotive? Le train qui est déjà parti. Tout ce que nous devons mettre en réaménagement du calendrier, nous savons de commencer. Nous allons mettre en réaménagement au présidentiel. Tout ce que vous savez, M. Gilles, nous voulons qu'il y ait actualisation du fichier électoral. Ces élections ici municipales, locales, oui, ce sont des élections qui sont nécessaires pour le pays, pour la démocratie. Mais s'il n'y a pas lieu,
les contrats
financiers ne sont pas encore résolus. Qu'on décale ça pour 2016, 2017, qu'on passe directement à des élections qui sont prioritaires, telles que les élections présidentielles et législatives, pour ne pas tomber dans la gouffre.
Alors, mettre son ville, qu'est-ce qui est plus important? Aller droit à l'alternance ou bien conditionner ce passage par l'enrôlement ipso facto de nouveaux majeurs?
Puisque l'enrôlement des nouveaux majeurs a été accepté par la CENI en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives. Or, nous ne sommes pour toutes les élections. Or, si certaines contraintes jusque-là ne sont pas résolues, au lieu de plonger le pays dans le chaos, pourquoi ne pas prévoir seulement les élections provinciales, présidentielles et législatives? Parce qu'à ce moment-là, tout ira bien avant, tout ira sur un bon rail, et ça sera des élections crédibles qui vont répondre aux attentes de toute la population. Pendant le temps, ça ne sert à rien de forcer, d'aller en force à ce qu'on sert la CENI. Là, ce n'est pas du tout normal.
Mais alors, ce qui étonne plus d'un, parce qu'on ne va pas vous prendre tout votre temps, au moment où la CENI, il y a quelques temps, a organisé la séance de sensibilisation de la population, il a même appelé, la population à pouvoir venir, consulter les listes dans leur circonscription, mais on a senti qu'il n'y avait même pas d'engouement. Les gens ne sont pas allés.
La population a été consultée sur liste. Mais le problème, le plus ardent, c'est celui des nouveaux majeurs. Puisque tout citoyen congolais a le droit et le devoir. On ne peut jamais exclure quelqu'un de ce droit. Puisque c'est un droit pour le nouveau majeur d'aller élire. C'est un civique. Le nouveau majeur doit aller élire. Pourquoi l'en empêcher? C'est là où se pose le problème. Pourquoi l'en empêcher?
Alors, s'il faut le faire, ça va prendre combien de temps? Parce que nous sommes à un mois ou deux mois des élections provinciales.
C'est pourquoi je suggère que qu'on puisse décaler ces élections municipales, locales, quoi que ce soit, pour qu'il n'y ait pas de remords dans les chefs de la population congolaise. Qu'on puisse les décaler pour 2017. Qu'est-ce que nous allons perdre? Puisque même le rapporteur de la CENI, à un moment donné, il disait pas question de l'aménagement du calendrier. Même l'abbé Malumalu, de la Afrique du Sud, là où il était, il avait dit pas question de l'aménagement du calendrier. Maintenant, où est-ce que nous en sommes?
Merci beaucoup,
Maître Sonville. Pourquoi ne pas décaler seulement ces élections-là?
Merci, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. Alors, Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Félicien.
Ah, bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs. Moi, je vous dis que tout ce que nous sommes en train de vivre, cet attendement, cette cacophonie, cette confusion, c'est déjà prévu par les rédacteurs politiques pour arriver à atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas par hasard qu'on est en train de créer toute cette histoire-là, de démembrement ou création de nouvelles provinces, et l'enrôlement, on parle de l'enrôlement des mineurs, des anciens mineurs, la révision du fichier électoral, et que sais-je encore, tout ce qui est en train de faire, on doit faire des élections pour les gouverneurs de nouvelles provinces, tout ça. Alors qu'on n'a pas l'État, il y a déjà des élections dans l'entente qui doivent arriver. On pouvait bien utiliser les hauts gradés dans ces provinces pour assumer l'intérim jusqu'aux élections. Donc, les politiciens ont leur calcul. En fin de compte, on va aboutir à ce qu'on ne veut pas. C'est le glissement. Et ce glissement-là est voulu de part et d'autre. Ils sont du côté de la majorité qui l'avait déjà préconisé et qu'ils sont du côté de l'opposition. Parce que l'opposition lui-même ne s'est pas préparée pour contrecarrer ça. L'opposition est divisée. Mais en réalité, tous, ils veulent le glissement, les personnes veulent le dire à haute voix. Et tout ça, ce sont des voies et moyens qui nous amènent tout droit à cet objectif. C'est ça la classe politique que nous avons. Et moi, je leur demande, carrément, de s'asseoir autour d'une table, d'aller à leur, dialogue, mais que de ce dialogue-là, qu'ils puissent décider de la réorganisation des institutions, de réorganiser le système politique, la gestion de l'État, et parce que les glissements, ils sont en train de le vouloir d'une façon ou d'une autre, et que les glissements leur donnent un gouvernement d'union nationale, une transition, au moins une transition qui va nous donner quelque chose de sérieux qui pourra nous amener à une république démocratique. Mais qu'ils arrêtent avec tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de fatiguer le peuple, ils sont en train de faire souffrir le peuple et ils sont ça dans cette situation où se trouve le peuple.
Mais
en effet, nous allons aboutir à ce gouvernement du non national, ils vont se partager les
cartes
et il y aura du glissement. Parce que tous ils concourent à cela, même ceux qui disent non et ceux qui disent oui, ils disent tous la même chose.
Alors Félicien, c'est vrai que cette position, en fait, disons, c'est quand même un député de la majorité présidentielle qui a préconisé l'actualisation du fichier électoral. Donc, pour dire, il faut quand même aller plus loin avec le raisonnement pour dire, mais voilà, il n'y a aucune intention du glissement là-dedans.
Si, M. Pierrot, parce que je ne sais pas parce que lui vient de le dire aujourd'hui, mais il faut analyser tous les actes qui sont posés depuis qu'on avait parlé de la révision de l'article 220 de la Constitution jusqu'aujourd'hui, tous les actes posés. C'est pour concourir toujours au même objectif. C'est-à-dire qu'on essaie ça. Ça ne réussit pas au contourne, mais pour arriver toujours au même objectif. Et le temps passe parce que la montre ne s'arrêtera pas.
Voilà,
le temps passe et on va tout voir au glissement.
Voilà, si je comprends bien, Félicien, pour vous, le fait que ce soit un député de la majorité qui ait préconisé cela, ça ne relève que d'une simple diversion pour arriver à l'objectif que vous évoquez, donc c'est le glissement. Merci beaucoup, Félicien. Albert, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, Rombo Pierrot.
Mais c'est J.R. qui est à l'antenne, Albert. Vous avez la parole.
Bon, merci, Pierrot. En tout cas, je félicite beaucoup Radio Okapi d'avoir organisé cette émission et surtout d'avoir invité Monsieur Christophe Lutundula, parce que vraiment, franchement, il faut féliciter ces dignes fils du pays qui a le courage au sein de la majorité présidentielle de demander à ce qu'on puisse vraiment actualiser les fichiers électoraux. Vous savez que M. Lumano, qui était ministre de l'Intérieur, avait créé beaucoup de chefferies et il a multiplié les chefs de groupement et tout. Et il est maintenant à la tête de l'ONIP. Et ils ont demandé que pour aller aux élections, il fallait d'abord faire le recensement. C'était une opération très coûteuse et très, très longue. Et maintenant qu'on leur dit, écoutez, on ne peut pas faire ce recensement, mais par contre, on peut enrôler les jeunes majeurs, pour les nouveaux majeurs, pardon. Et là, ça devient encore compliqué. Non, M. Kabila vient de faire, va accomplir en 2016 15 ans de pouvoir. Et à son âge, je crois qu'il peut se reposer parce que la loi, la
constitution,
on ne voit pas pourquoi on veut absolument tricher. Ça, c'est une façon d'exercer le glissement. Aujourd'hui, il est au Katanga, en train d'inaugurer tout ce qu'on a déjà vu à la télévision, parce que le gouverneur du Katanga, M. Katumbi, avait déjà fait. Mais finalement, c'est quoi cette histoire? Il va peut-être inaugurer l'état majesté de l'ambassade.
Oui,
et comme
Albert,
ça, on comprendra qu'il a travaillé.
Oui,
non,
Albert,
les choses sont claires.
Albert,
Obama
Albert,
vient de parler clairement, Albert, il ne faut pas s'éterniser au pouvoir.
Albert,
il y a d'autres Congolais qui
Albert,
veulent aussi continuer
Albert,
le travail du voilà, développement de ce pays.
Voilà, Albert, ne le faisons pas de l'amalgame. Je crois qu'il en vaut aussi pour tous ceux qui vont intervenir un peu plus tard dans cette émission. Nous parlons de cette déclaration, en fait, la position du député de la majorité, Christophe Lutundula, qui a préconisé l'actualisation du fichier électoral pour enrôler le nouveau majeur. Alors, nous nous sommes dit, pour la thèse, certains observateurs pensent que l'enrôlement de ce nouveau majeur risque de retarder le processus électoral. Et une autre opinion estime que l'enrôlement de cette catégorie d'électeurs serait plus que nécessaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc? Qu'en pensez-vous, Serge? Vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Serge.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs. En fait, d'entrée de jeu, je salue d'abord la pertinence du raisonnement de M. Lutundula. En fait, moi, je me dis ceci. Quel est ce Congolais qui a beaucoup plus de droits que les autres? Je me demande aujourd'hui à qui profite l'enrôlement des nouveaux majeurs. Donc, moi, je pense que et la majorité et l'opposition, tous on ira aux élections. Donc, on a intérêt d'enrôler ces jeunes majeurs pour que chacun en profite. Parce que les jeunes majeurs ne sont pas au crédit de l'opposition, si je comprends bien. Mais aussi, M. Lutou, en projetant sa réflexion, il n'est pas resté niveau, il a pensé qu'on peut ramener ces élections au-delà de 2016. Donc, c'est une pensée tout à fait logique par rapport au. Nous avons des problèmes de finances, nous avons beaucoup de problèmes techniques liés aux élections. Donc tout ça, ça mérite un raisonnement
ouais,
très scientifique, très logique, comme celui de Lutundula, pour qu'on comprenne, parce que sinon, on va droit à ce qu'on évite. Donc,
merci.
Moi je me dis, la démocratie, la véritable, hein, celle que l'Assemblée nationale doit mettre en place, c'est celle qu'elle doit bâtir. C'est une chambre de démocratie, il ne faut pas que ce soit une chambre des intérêts des particuliers. Donc là, ça fait mal.
Merci beaucoup, Serge, d'avoir appelé le Kinshasa 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous retrouvons dans ce studio l'honorable Christophe Lutundula Pala, qui est avec nous. Bonjour, honorable.
Bonjour,
voilà. On venait là de suivre la première série des auditeurs, mais d'entrée les jeux. Qu'est-ce qui a motivé votre position aujourd'hui pour arriver à préconiser l'actualisation du fichier électoral? Nous savons que c'était autrefois, en tout cas les années passées, le point de bataille de l'opposition, qui organisait même des jeudis, des sit-ins tous les jeudis devant la CENI pour réclamer l'actualisation du fichier électoral avec les fameux serveurs.
Donc, d'abord, je vous remercie de m'inviter à votre radio et je remercie tous les auditeurs qui participent déjà à ce débat citoyen et républicain. Je ne place pas les choses sous l'angle de l'opposition de la majorité, mais sous l'angle d'abord de la vérité intellectuelle, de la rationalité intellectuelle, et sous l'angle aussi, comme je l'ai dit, des intérêts de la République et de chacun des Congolais. Ce n'est pas aujourd'hui que je préconise ce que moi j'appelle « hâtons-nous lentement vers la décentralisation » pour lui donner les chances de réussite. Ce n'est pas aujourd'hui que je préconise la rationalisation du processus de décentralisation, d'autonomie de province et du processus électoral. Ça fait de cela pratiquement, j'allais dire, 3 ans. L'année dernière, au mois de mars, si je ne m'abuse, lorsque M. Labbé est venu à l'Assemblée nationale, nous présentait les différents scénarios, les différentes hypothèses d'organisation des élections, rappelez-vous, j'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale que la priorité d'urgence était la régularisation constitutionnelle de mandats de députés provinciaux, de gouverneurs de province et de sénateurs, et qu'on devait aller vite en besogne pour mettre toutes les institutions nationales et provinciales au même niveau de la légitimité populaire et au même niveau de conformité à la Constitution de la République. Dans ma famille, comme à l'extérieur de la famille, certains ont cru que j'étais en train de rêver, et je crois que la réalité me donne raison aujourd'hui. Pour le problème du fichier électoral, parce qu'il s'agit de cela, je crois qu'il faut rappeler certaines règles fondamentales. La Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît à chaque citoyen le droit d'élire et d'être élu. À partir des 18 ans, on a le droit de choisir ce qui gère son destin. Et pour l'élection, son éligibilité, il y a des âges qui sont prévus selon qu'il s'agit de conseillers, de organes délibérants locaux, des assemblées provinciales, gouverneurs, députés, sénateurs, jusqu'au chef de l'État. Il y a des âges qui sont prévus. Et cela, ce principe, ce droit de voter et de se faire voter, est même déclaré, est consigné, énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En fait, notre Constitution, elle est vraiment démocratique, a fait sienne toutes les règles, tous les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, à partir du moment où les Congolais, ou un Congolais à 18 ans, sauf s'il tombe dans deux cas, par exemple, il est en prison privé de ses droits politiques, ou il est atteint d'une maladie qui diminue ses capacités de choix et ainsi de suite, c'est prévu dans la loi électorale. Mmh. Mais dès qu'on a 18 ans et qu'on n'est pas sous le coup de ces interdictions, on a le droit de voter. Ça fait 5 ans, déjà, si je m'abuse, que le fichier électoral a été établi. Nous-mêmes qui avions été élus en 2011, l'année prochaine, pour le président, il aura fait 5 ans. Pour nous, les députés, je crois, mars 2017, nous aurons fait 5 ans. Donc, c'est une longue période. Il y en a qui sont nés, il y en a qui ont atteint 18 ans, il y en a qui sont morts aussi. Vous comprenez? Donc, c'est un problème d'abord de respect de la Constitution et un problème des droits de l'homme. D'autant plus d'ailleurs que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit clairement qu'en fait, tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Cela aussi est repris dans la Constitution de la RDC. Donc, on ne peut même pas avoir des discussions sur la question. Maintenant, les points qu'il faut examiner, à mon sens, c'est la faisabilité. Et là, c'est une question de calendrier, une question de logistique, une question de programmation. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème de majorité ou d'opposition, c'est un devoir citoyen que de porter sur la place publique une telle réflexion, que d'appeler l'attention aussi bien de ceux qui dirigent la République, du chef de l'État, j'allais dire, au chef de poste d'État, même si ces postes sont supprimés, et rappeler aux citoyens congolais pour qu'ils réclament leurs droits. Donc là, je ne crois pas quelque chose d'extraordinaire que nous ayons fait, mais nous avons appelé les gens à la raison constitutionnelle, à la raison...
Alors, si nous quittons ces dispositions légales, ces dispositions inscrites, en fait, dans la Déclaration des droits de l'homme, raisonner un peu, d'une manière un peu simple, oui. Comme un homme de la rue, oui. Aujourd'hui, à qui profite, à qui doit profiter cet enrôlement? Est-ce à la majorité, à l'opposition? Parce qu'on venait de suivre là les auditeurs qui vont tous dans le sens de ne pas vouloir accepter l'enrôlement, c'est-à-dire amener les gens au glissement. Et l'accepter, c'est donner la part belle à l'opposition.
Je crois qu'il y a beaucoup de choses à préciser. Moi je ne raisonne pas en termes d'à qui profite. À qui profite? À la République démocratique du Congo, au peuple congolais et à ceux qui ont atteint cet âge-là, qui enfin vont voter, vont se prononcer sur leur destin. C'est d'abord ça qu'il faut voir, à mon sens, au lieu de se prêter des intentions. Bon, on parle de glissement. moi, je parle pas souvent de cette question parce que j'ai l'impression qu'on la simplifie beaucoup. En réalité, moi, je raisonne froidement. On a glissé avec les députés provinciaux. On a glissé avec les gouverneurs. On a glissé avec les sénateurs. Hélas, c'est dommage parce que ce glissement qui est contraire à la Constitution démontre quelque part, je suis désolé de le dire, notre capacité de nous comporter conformément aux normes des démocraties. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour qu'on évite ces glissements. Deuxième élément, mais le principe selon lequel le président cède ses fonctions à l'installation de son successeur, les députés, les sénateurs cessent leur mandat à la validation, et ainsi de suite. Oui, c'est le principe de la continuité de l'État, parce que l'État ne fonctionne pas partiellement ou à temps partiel. C'est ça le principe cardinal de droit administratif. Mais ce principe de droit administratif ne peut pas nous conduire, par une interprétation maligne et abusive, à substituer les mandats électifs par de sortes de mandats, si vous voulez, j'allais dire un peu conventionnels. Non, c'est pas comme ça. C'est un principe qui est destiné d'abord à assurer le fonctionnement régulier des services de l'État, mais pas pour donner des mandats comme on le fait chez nous. Et c'est la honte de la République. Et puis, par rapport à ça, je reviendrai à la question. À mon sens, s'il était préférable que l'on se référât, pour ce cas précis, à la Cour constitutionnelle. Je crois que c'est une institution de régulation du pouvoir public en l'absence ou devant la lacune de la loi. À l'époque, lorsqu'on s'était aperçu qu'il sera impossible d'organiser les élections, on aurait dû poser la question à la Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle. Qui nous aurait dit, ne faites pas ça. Ça a été fait avec les deuxièmes tours, lorsqu'on avait les deuxièmes tours, rappelez-vous. C'est ce qu'on aurait dû faire dans une démarche républicaine et soucieuse de respecter la Constitution. Alors, maintenant, un glissement organisé, prémédité, c'est une violation de la Constitution. Le glissement ne peut provenir que d'un cas de force majeure. Et par définition... D'abord, un cas de force majeure. Le consensus ne peut pas aller à la porte de la Constitution.
Parce que le dialogue...
J'en viens. Le glissement ne peut pas aller à la porte de la Constitution parce qu'il est consensuel. Non, c'est pas un consensus qu'il faut. C'est un cas de force majeure et par définition imprévu et imprévisible. Prenons, comme ça, on fait un peu de la pédagogie, pas pour les jours des élections, je donne comme ça. Il y a une catastrophe naturelle qui se produit. En tout cas, il y a quelque chose qui se produit et on constate, nous tous, qu'il n'y a pas moyen d'aller au scrutin aujourd'hui.
Oui.
Et une partie du territoire national est occupée. Voilà, on n'a pas prévu. Et ça ne pouvait pas être prévu. À ce moment-là, on saisit la Cour constitutionnelle qui énonce une règle de principe, comme on dit. Vous voyez ? Alors, ici, voici la solution que je propose. C'est vrai que l'actualisation du fichier électoral aujourd'hui aura des incidences sur les calendriers. Je ne peux pas monopoliser la parole.
Oui.
Déjà, vous avez fait remarquer que les calendriers
on
retouche.
Oui, on
parce que dans la série d'ailleurs.
Oui, je pense qu'on reconnaît un peu l'incidence. Il est temps peut-être d'écouter trois autres auditeurs. En rappelant d'ailleurs à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à ces débats citoyens en composant les 081-890-6315. L'actualisation des fichiers électoraux, c'est de ça que nous parlons.
Parole aux auditeurs.
Alors Maurice, vous êtes à Kinshasa, prof Placide Nguna, à Kinshasa également, Ernest Abatadi. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour Germain.
Vous avez la parole, votre point de vue Maurice.
Oui, je commence par saluer d'abord l'honorable Tundula pour le patriotisme et ses devoirs citoyens qu'il a toujours défendu en fait dans cette majorité dite mécanique. Je pense que je vois maintenant la raison pour laquelle ils sont, lui et ses amis, sont en fait qualifiés de frondeurs en fait dans cette majorité, comme je disais, factice. C'est que l'honorable Lutundula rappelle, c'est une exigence constitutionnelle. Il n'invente pas, c'est pas une proposition inventée par lui ou par ses collègues qui défendent la même démarche. C'est une exigence constitutionnelle. C'est l'article 5 de la Constitution qui voudrait que toute Congolaise et Congolais à l'âge de 18 révolus est obligé, en fait, à cette obligation de voter. Alors, donc, il est dit aujourd'hui, je pense que c'est juste un rappel, et ce rappel-là, il est, en fait, valable dans le contexte actuel de choses. Quand même, quand on parlait, en fait, de cette loi portant répartition des sièges, nous avions, en fait, de la majorité, de l'opposition, de la société civile, tout le monde est unanime, hein, bien qu'il y a quand même un certain groupe qui estime qu'il faudra toujours gouverner par des fils de pays, qui estime qu'il faudra à tout prix, à coûte que coûte, organiser les élections locales, urbaines et provinciales. Or, sur le plan, en fait, de la faisabilité, sur le plan budgétaire, sur le plan temporel, aujourd'hui, tous les indices, tous les indicateurs, tous les présenteurs nous renseignent qu'on ne peut pas, même s'il y avait de la volonté, organiser ces élections tout en respectant le calendrier publié par la CENI. Alors, dans tout ça, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu politique, en fait, qui est poursuivi par un petit groupe-là, en fait, qui pense que ce pays doit continuer à être géré dans leurs poches, c'est de provoquer un chaos dans le pays. C'est-à-dire qu'on trouve devant une impasse où les gens vont se dire que non, face au démembrement des provinces, face à l'impossibilité de tenir des élections par rapport aux problèmes de moyens, par rapport aux problèmes de temps, alors il faudra maintenant aller dans un dialogue qui va nous permettre, en fait, d'aller dans des trois ans,
oui,
on va organiser de manière consensuelle les choses.
Oui, Maurice,
alors, c'est ça. Oui.
Oui, Maurice, à un moment, nous avons reçu dans ce studio Félix Tshisekedi par rapport au dialogue. En fait, il nous a révélé que pour lui, si dialogue y aura, je crois que l'actualisation du fichier électoral serait l'objet de débats ou d'échanges et partages au niveau de ce dialogue.
Tout à fait. Le dialogue, en fait, je ne dis pas que je suis contre le dialogue. Je l'ai toujours défendu, même à travers vos émissions. Le dialogue, il est important juste pour faire un recadrage, pour, en fait, fiabiliser, en fait, ces processus. Parce que nous estimons que non, ceux qui sont censés organiser les choses nous prouvent suffisamment qu'ils n'ont pas cette volonté d'organiser les élections. Alors, s'il n'y a pas de dialogue, c'est-à-dire que nous allons laisser les champs libres à ce groupe d'individus à manipuler les choses jusqu'à nous dire, arrivant à terme de 2016, que non, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas eu ceci. Raison pour laquelle nous voulons qu'il y ait un dialogue là,
pour
que ces gens-là nous disent clairement qu'est-ce qu'ils disposent comme ressources afin d'organiser les élections dans les délais espacés par
Merci beaucoup, Maurice, d'avoir contribué dans cette émission, dans ces débats citoyens. Nous allons prendre professeur Placide Nguna, qui est également à Kinshasa. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Bon, mon point de vue est celui-ci. Je peux vous faire un petit rappel. J'ai été agent électoral en 2006. Bon, moi-même, je sais qui aurait gagné les élections, surtout présidentielles. Et pour l'année 2011 aussi, c'est la même bêtise qui s'est répétée. Et une part, c'est lui qui est en place qui a gagné les élections.
Oui, oui, je crois que... professeur Placide, je crois que nous devons rester dans la thématique. Nous parlons du fichier électoral. Pour ou contre l'actualisation de ces fichiers?
Oui.
Voilà.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous partagez l'avis du député de la majorité, Christophe Lutundula, qui préconise l'actualisation du fichier électoral? D'autres vont encore plus loin pour dire, bon, cette question pourrait être débattue lors du débat ou du dialogue national qui sera organisé dans les jours à venir.
Oui, oui, merci. Accordez-moi d'office 2 minutes.
Oui, allez-y, hein, tout en restant dans la thématique.
Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais dire ceci, pour le nouveau majeur, d'après notre constitution, nécessairement, ils sont obligés à voter. C'est-à-dire, il faut réfugier le fichier électoral. Quelles que soient les conditions, tout Congolais a droit à voter. Nous devons quand même suivre L'exemple, par exemple, les Européens. Nous prenons, par exemple, la France. N'importe quel Français, là où il se trouve.
Oui, mais vous ne redoutez pas comme les autres, Placide, qui estiment que voilà, c'est là risque de retarder le processus électoral.
Oui, il faut nécessairement retarder, puisque tous les nouveaux majeurs là, tous les jeunes gens qui ont atteint déjà 18 ans, ont droit à voter.
Mais en retardant le processus, nous allons toujours avoir un vieillissement.
Retarder.
Voilà. Merci beaucoup, professeur Placide. Ernest, vous êtes à Batadi. Bonjour, Ernest.
Bonjour, JL, et bonjour à l'honorable.
Merci. Vous avez la parole, Ernest.
Merci beaucoup. Nous sommes très intéressés par ce que l'honorable est en train de dire, mais il y a un regret profond si l'honorable qui siège à l'Assemblée nationale et aujourd'hui se rend compte que en retard fort.
Voilà, vous avez pris peut-être en cours de l'émission.
Non, il a même précisé
sa démarche.
Le regret, c'est quoi? Depuis longtemps, on a été réclamé qu'on puisse récupérer ces jeunes gens, nos frères et sœurs qui ont atteint aujourd'hui 18 ans pour le vote. Mais le regret, c'est quoi? La CENI qui doit opérer, c'est de faire cette opération. En 3 mois, si la CENI est capable de le faire en 3 mois, si on peut commencer au mois d'octobre prochain ou novembre, et qu'elle au mois de février, cela ne va pas déranger les élections de 2016. Mais si on retarde, parce que l'inquiétude des régions, c'est quoi? Vous voyez même hier, l'émission d'hier, et les fois déjà, la CENI nous annonce le changement de calendrier pour les gouverneurs, les gouverneurs des provinces démembrées. Ce sont ces inquiétudes que la CENI ne sera pas capable dans 3 mois d'organiser des recensements dans toute la République et terminer l'opération. Il y aura un problème d'électricité qui va se poser, il y aura un problème de matériel qui ne sont pas arrivés à bon port, il y aura. Donc, tout ça, c'est, nous avons des inquiétudes. Si l'opposition qui demandait, dès qu'on avait publié le calendrier global, qui demandait qu'on puisse directement entamer l'environnement de ces jeunes gens, aujourd'hui, on n'allait pas parler de cette question. La question serait peut-être vers la fin, parce que la CENI joue à une politique de prolongation sans gêne. C'est ça notre inquiétude. Bon, si l'honorable doute...
Mais Ernest, je crois que nous sommes tous informés que la CENI, en publiant les calendriers, avait également présenté les contraintes pour l'organisation de tous ces scrutins. Donc je crois que ce n'était pas le jeu des cache-cache, c'était au vu aussi de tout le monde. Il était question aux politiques de réagir à l'instant.
Mais la CENI... reçoit les moyens financiers du gouvernement. Si c'est la CENI est sincère, il dit qu'il y a des contraintes et que les contraintes seraient vidées par les moyens financiers qui viennent du gouvernement. Alors, c'est ce que c'est le gouvernement qui gère. N'oubliez pas, M. J.R., dans notre pouvoir politique, dans notre gouvernement, il y a des gens qui ont dit, papa, Carlos Olympi, on a noté. Ce sont des phrases qui prouvent que le glissement est pointé, on doit être voulu par un groupe d'hommes. Donc, c'est vraiment la CENI qui est sincère. Alors, c'est le gouvernement qui ne donne pas les moyens pour que la CENI
voilà, donc tout ça c'est le problème de moyens. Merci beaucoup Ernest. On revient à vous, Monsieur Christophe, honorable Christophe Ndoula. Voilà, l'incidence. Je crois que tout le monde craint aujourd'hui. En fait, l'incidence. Est-ce que ça n'aura pas une incidence sur le calendrier même, ou encore sur le processus d'ailleurs?
Oui, tout à fait. Je permets juste une minute, demander aux auditeurs quand même de nous suivre ceux qui veulent intervenir.
Oui.
Je dis et je répète, ça fait environ 2 ans et demi que je crie Urbi et Orbi pour dire qu'il faut qu'on aille avec une certaine rationalité, avec profondeur, avec patience, avec toutes les chances de réussir la décentralisation et les élections. Donc, chers amis, ne me dites pas que c'est seulement aujourd'hui. Bon, oui, l'actualisation du fichier électoral, il faut le voir objectivement. Ne mêlons pas trop de politique et politicienne. Aura les incidences suivantes. D'abord, nous arriverons probablement, en tout cas presque certainement, à augmenter le nombre des électeurs. Ce qui impacte, ce qui a des conséquences sur la répartition des sièges. Et c'est pour cela que, par rapport au débat qu'on a engagé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, je suis sorti parce que je ne voyais pas comment on allait faire les choses telles que mon collègue Boutakine l'a proposé. Et
quand un cas simple, parce que les gens doivent comprendre, si après actualisation, il s'avère que X circonscription, qui avait au départ 100 000 électeurs, en a 150 000, 200 000, il est clair que cette circonscription devra ou pourra avoir, parce qu'il faut équilibrer le tout globalement, une augmentation des sièges. Vous comprenez? Donc, ça va impacter sur la répartition des sièges, au niveau des locales, des municipales et au niveau des provinciales et des législatives. OK? Parce qu'il y a un impact sur la répartition des sièges, bah, on devra aussi revoir les candidatures déposées. Actuellement, on a déposé les candidatures pour les provinciales. Si la circonscription passe de 2 à 3 sièges, vous comprenez que le nombre de candidatures déposées est inférieur. Comment peut arriver aussi qu'une circonscription passe de 3 à 1 siège? J'exagère peut-être, mais pour nous permettre de comprendre les choses. Deuxième incidence, c'est sur le calendrier. Et déjà, on voit que, bon, avec la mise en place de nouvelles provinces, là encore, j'ai alerté, j'ai dit, attention, attention, faisons le tout dans le mouvement général, en prenant quelques provinces à titre, je ne dis même pas d'essai, graduellement, vous comprenez. On a dit que je le connais, j'ai même été un jury à l'Assemblée nationale, le peuple donne raison. Donc, ça aura un impact sur le calendrier, évidemment, un impact sur les finances. Tout cela peut être géré, parce qu'encore une fois, c'est une exigence constitutionnelle, c'est un problème des droits de l'homme. Le Congo ne peut pas se dire un État démocratique, un État de droit, et faire comme si la démocratie n'a pas d'exigence, comme si l'État de droit n'a pas d'exigence. Comment gérer ça, brièvement? Voici un peu, modestement, ce que moi je peux proposer. Je ne crois pas qu'il est nécessaire de faire le dialogue. Et je comprends le président de la République qui parle éventuellement, dans ce sujet, il a dit éventuellement le dialogue. J'apprécie l'objectivité du président de la République, qui, comme la plus haute autorité politique de la République, qui, en vertu de l'article 69 de la Constitution, a l'obligation d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le respect de la Constitution, et j'ajoute une phrase qui me paraît essentielle, la bonne tenue de la nation, a reconnu la pertinence de la démarche d'actualisation, de la démarche consistant à saisir les nouveaux électeurs. Et je dis que le dialogue aujourd'hui ne fera que retarder les choses. Parce que dans ma tête, et je l'ai dit aussi il y a 3 ou 4 mois, il n'est pas question de faire des transitions. Une constitution en vigueur comme la nôtre n'est pas une constitution de transition qui prévoit d'autres constitutions. Nous sommes un État qui fonctionne normalement. Et je n'ai jamais compris pourquoi un pays qui a si bien démarré, depuis que le président Kabila est là, à un moment donné, on est dans le
bâtiment.
Je ne comprends pas ce qui arrive chez le Congolais et dans les chefs de nos dirigeants. Alors, et je dis ceci, nous pouvons nous mettre d'accord. Premier élément, on ne fait plus les provinciales cette année. On dit à la CENI, messieurs, dames, saisissez-nous ces nouveaux majeurs, ces nouveaux électeurs, parce que c'est de leur droit. Et la CENI peut nous dire, pour cela, je peux faire 5 mois, 6 mois, 7 mois, 10 mois. Cela est faisable. On peut raisonner, avoir un timing et voir avec nos partenaires extérieurs, on ne peut pas s'en passer, quelle que soit la manière dont nous intériorisons la souveraineté nationale, et on voit dans ce délai-là comment faire cette saisie rapidement. Ne faites pas les délais, on prendra du temps. Alors, l'année prochaine, une année électorale. On peut concevoir qu'au premier trimestre, voire même au premier semestre, on fait les provinciales, l'élection de gouverneur et les sénatoriales. Et aux dates prévues, ou à la date, parce qu'on a prévu que le tout se fasse en même temps, comme les fois dernières, pour la législative et la présidentielle, je crois que c'est en novembre l'année prochaine, on fera les élections. Il n'y aura pas de glissement dans ces conditions-là. C'est une question de volonté. D'un mot, je dis, on recule les provinciales, pas cette année, d'ailleurs ça s'annonce déjà, parce que je dis que la CENI doit adapter son calendrier par rapport à celui de ce gouverneur.
Le gouverneur, dans deux jours, on va tomber déjà vers le mois de septembre.
Voilà.
En principe, alors, le mois de septembre,
ça, devait... la CENI va tout droit à l'actualisation du fichier électoral, à la saisie de ces nouveaux majeurs, et l'année prochaine, et l'année électorale. Mais, et local et les municipales, vous permettez, comme c'est eux qui vous proposez, on va les organiser plus tard, lorsqu'on aura installé toutes les institutions professionnelles nationales, et on aura régler tous les problèmes qui se posent au niveau de l'organisation, du fonctionnement des entités
territoriales. Alors, à la limite, question de curiosité rapidement, puis je vois que j'oublie. En fait, il y a quand même certains observateurs qui mettent quand même quelques inquiétudes. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, les processus de démembrement avec la création de nouvelles provinces, ça n'aura pas un impact? Ne vient-il pas, en fait, compliquer encore l'équation de la création
des fichiers? Mais, cher ami, vous ne faites que me donner raison. Mm-hmm. L'année passée, cette année, vous savez pourquoi j'ai été diabolisé depuis la tribune de l'Assemblée nationale. J'ai dit, il ne sert à rien de, je dis pas de démembrer, parce que les 26 provinces dont on parle sont dans la Constitution, et ça ne date pas d'aujourd'hui.
Parce qu'il y a des circonscriptions.
Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 60 qu'on a opté pour l'autonomisation de provinces, ça nous prendra du temps si on revient à ça. Hein, vous comprenez? Mm-hmm. Donc, j'ai dit, installons progressivement les provinces. Ça a toujours été la philosophie de base depuis la Conférence nationale souveraine. J'étais associé à la rédaction des textes constitutionnels. On aurait pu prendre, je donne comme ça, il y a des ministères du plan, l'économie, l'intérieur, finances, pouvaient nous faire des études pour nous dire cette législature ou ces élections, nous prenons telle ou telle province, même les deux provinces les plus grandes, ou même les plus petites parmi les 21 à installer. Et ces provinces auraient dû être installées dans le processus électoral normal. On élu les députés provinciaux, ils siègent, et ainsi de suite. Je ne vois pas...
Trois ans, progressivement, comme vous voyez la Constitution.
On peut même dire, JR, chaque année, aux élections prochaines, on installe deux ou trois. L'année qui suit, ce sera facile parce qu'il n'y aura que des élections pour les provinces concernées. Mmh. Vous comprenez? Et on aurait dû faire un processus comme ça. Je ne vois pas. J'insiste, et je suis ferme là. C'est ma conviction. J'ai raison parce que la réalité démontre. Je ne vois pas la valeur ajoutée que l'opération actuelle d'installation, j'ai dit précipitée, parce que il n'y a pas quelque chose prévu dans le budget. On n'a pas actualisé le budget. Je souhaite ardemment que d'ici
septembre,
lorsqu'on commence le budget, le gouvernement va saisir la nouvelle donne politico-administrative et la traduire en termes budgétaires. Donc, on n'avait pas besoin de ça. Voilà maintenant.
Alors, il y a l'honorable Pouilla, qui est député national, qui nous a rejoint dans ce débat. Ben, bon, vous êtes de la majorité et il est de l'opposition. Peut-être qu'il va émettre un peu son point de vue par rapport à ce débat. Honorable Pouilla, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Et je salue très chaleureusement mon collègue aîné Christophe Lutundula, qui nous permet aujourd'hui de revivre les jeunes Christophe Lutundula Apala que nous avons connus du temps de la Conférence nationale souveraine, avec une rationalité qui épatait tout le monde. Je suis content de la retrouver et je salue son point de vue, surtout les derniers qu'il vient de donner sur l'implantation ou les découpages, comme on est en train de l'appeler. Il est anormal que dans un pays qui a 55 ans d'indépendance, qu'on puisse aller dans une précipitation inconsidérée pour implanter, pour créer de nouvelles provinces. On a beau condamner Mobutu, mais Mobutu a pu nous démontrer avec la grande province de Kivu qu'on peut faire des choses méthodiquement. Aujourd'hui, le découpage de la province de Kivu, c'est une réussite, c'est même le modèle. Et aller dans la précipitation répond justement à un agenda caché. Et ça, la République n'en a pas besoin.
Alors, honorable, est-ce qu'on peut revenir un peu au débat oui. Actualisation du fichier électoral, êtes-vous favorable à ça ou non?
Je dis que je suis parfaitement d'accord. Je suis d'accord avec l'honorable Christophe sur plusieurs points de vue. Mais là où j'aimerais qu'il monte davantage, c'est que qu'ils se rendent compte avec nous. Je pense c'est l'un des meilleurs députés que nous avons, qui a lu les rapports de la CENI, qui la CENI elle-même, qui reconnaît, je pense, autour de la page 56 ou 57, que beaucoup de kits électoraux ont été volés. Laquelle fichier électoral est corrompu? Il y a beaucoup de fictifs. Il y a des kits qui ont été volés et les cartes d'électeurs, à ce jour, il n'y a pas un document le plus trafiqué, le plus falsifié, le plus dupliqué. Alors, on ne peut pas parler seulement aujourd'hui de l'enrôlement des jeunes. Nous devons, et c'est là que je salue sa proposition, qu'on fasse table rase de tout aujourd'hui, qu'il n'y ait pas élection provinciale, mais qu'on puisse renouveler, parlons du renouvellement du fichier électoral, c'est-à-dire qu'on recommence l'opération parce que les castes d'électeurs que nous avons aujourd'hui sont détenus par des militaires, par des policiers, voilà, par des ressortissants des pays voisins, et nous ne saurons pas aller aux élections dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Voilà, honorable, est-ce que vous ne craignez pas, comme d'autres observateurs, cette incidence majeure, c'est-à-dire le retard du processus électoral, parce que tout le monde tient ou souhaite de tous les voeux l'alternance en 2016. Donc accepter aujourd'hui que le processus soit retardé, c'est cautionner par exemple le glissement, comme le disent certains observateurs, hein, nous prenons juste le propos de
ceux-là qui l'ont dit. Je suis l'un de ceux qui disent qu'il n'y aura pas un jour de plus. Il faut qu'il y ait cette passation suffisante.
Mais comment il n'y aura pas un jour de plus au moment où nous réclamons l'actualisation du fichier électoral?
Excusez-moi.
Oui.
Le calendrier électoral pour l'élection présidentielle est constitutionnel et pour les députés nationaux et provinciaux, bien sûr. Pour nous, nous ne trouvons pas, c'est important, mais je ne vois pas le caractère très indispensable aujourd'hui pour les élections locales. Nous pouvons d'abord renouveler le fichier électoral, pour qu'il n'y ait plus de écueils, de nouveaux jeunes, tout ça, de nouveaux majeurs, pardon. Alors, on renouvelle le fichier électoral et on commence par les élections présidentielles l'année prochaine et les législatives nationales. Sinon, on peut coupler à tel moment les législatives provinciales
provinciales,
nationales et les présidentielles au même moment. Dommage qu'on ait éliminé le second tour, on aurait pu faire comme on l'avait fait en 2006. Donc, mon point de vue, c'est celui-là. On renouvelle le fichier électoral. Nous mettons en prière cette année les élections provinciales pour aller de manière un peu plus rapide.
Merci beaucoup, honorable.
Je suis d'accord avec l'honorable Christophe que je salue, mais qu'on aille plus loin, qu'on renouvelle tous les fichiers électoraux.
Merci beaucoup, honorable député national de l'opposition, d'avoir rejoint en tout cas ces débats citoyens. Nous disons également merci à Michaud Onamamba, à Gracia Lucara, Jean-Clovis Makako, Bruno Moutiengaï, Bob Malo Timothée, Badin Chakotongona, Maurice Mouyananou et Alfred Isaya, tous nous ont envoyé leur message, que nous aurons, on ne saura pas tout lire, mais il y a vraiment de Bibles qu'on doit découvrir, des messages par rapport à ces débats, mais on pourrait peut-être découvrir quelques-uns, donc avant la fin de cette émission, le temps de demander à Sylvestre, qui est à Kindou, Adrien à Kimpese, de garder la ligne, on va vous accorder la parole d'un moment à l'autre, et nous rappelons au même moment aux autres qui viennent à peine de nous rejoindre, qui peuvent également participer à ces débats citoyens en composant les 081-890-6315 pour leur intervention en direct.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Capi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Capi en balade.
Nous poursuivons avec parole aux auditeurs et dans quelques minutes, donc nous allons entamer le dernier quart d'heure de cette émission. Mais il est temps pour nous de revenir dans ce studio avec notre invité, Christophe, honorable Christophe Lutundula. C'est vrai, nous venons de suivre l'honorable Pouella qui est de l'opposition. Mais qu'est-ce que cela vous fait quand l'opposition vous rejoint dans ce que vous préconisez?
Bien, d'abord, je salue le collègue Poulard, mon jeune frère, parce qu'il s'est référé à nos traditions. J'ai dû rendre l'ascenseur, c'est très sympa de sa part. Je crois, comme je le dis, c'est pas un problème de majorité, c'est pas un problème d'opposition, c'est un problème de devoir citoyen. C'est une interpellation de conscience morale et de conscience civique, dirigeant ou non, opposition ou majorité, simple citoyen ou non, société civile, nous avons le devoir de donner une bonne image de la République démocratique du Congo et de sa jeune démocratie. La démocratie, c'est un processus cumulatif. C'est pas facile, il faut y aller, ne reculons pas après avoir fait un si bon chemin. Je suis d'accord avec vous là. Il a fait adhésion au rapport de la CENI, vous n'avez pas ça. C'est dommage que ça va faire la deuxième année que nous n'avons pas l'occasion à l'Assemblée nationale de débat du rapport de la CENI qui le dépose. Effectivement, quand vous lisez ce rapport, vous dites, mais finalement, ce que nous faisons aujourd'hui, ça correspond à quelle réalité? Parce que la CENI démontre, chiffre à l'appui, argument à l'appui, qu'en fait, c'est ma conclusion à moi, que le processus est mal engagé. Donc, préservons la paix, préservons les acquis. Tout à l'heure, je rappelais les paroles importantes du chef de l'État. L'actualisation du fichier électoral, c'est aussi une obligation légale. Hein, quand vous lisez la loi organique relative à l'organisation du fonctionnement de la CENI ou la loi électorale, vous trouverez ces éléments. Donc, j'ai dit, ce sont les modalités pratiques qui doivent nous préoccuper. Et j'ai donné un schéma qui est simple. On donne à la CENI un délai jusqu'à l'année prochaine pour procéder aux opérations d'actualisation. On traite, d'ailleurs, je crois que l'Union européenne, la francophonie est déjà là. Et déjà là, moi, si ça j'ai des missions, la paix pour l'Afrique, je connais ça. La francophonie travaille déjà avec l'Union européenne, avec la CENI. Donc, on peut procéder à ça. Et il ne faut pas combiner trop les élections. J'entends des compatriotes qui disent, en une fois, en une seule journée, on peut faire les provinciales, les législatives et les présidentielles. C'est trop, n'oublions pas aussi que notre électorat n'a pas, ce n'est pas faire injure à ce peuple qui m'a élu, que je respecte beaucoup, nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension. Donc, il ne faut pas, même nous qui avons la possibilité de mieux comprendre, si vous avez affaire à trois grandes élections le même jour, ce n'est pas facile. Maintenant, le cap de faire les élections en deux étapes. L'année prochaine, une année électorale, on fait les provinciales, on verra la date, peut-être, pourquoi pas, vers juin-juillet, et puis la législative et les provinciales.
Si vous le permettez, on va suivre le flash d'information, et puis on va revenir à vous, il est temps d'ailleurs de rappeler encore nos moyens de contact, donc le 081-890-6315, ou encore, vous nous déposez vos commentaires sur notre page Facebook. Honorable John Tinanzabo, vous êtes député national élu des Bounia, vous êtes avec nous?
Monsieur J.S.
Voilà, merci de nous rejoindre. Et voilà, quel est votre point de vue par rapport à cette thématique?
Écoutez, J.S., je vous remercie de ce débat citoyen. Je salue mon collègue Christophe, nous qui est avec vous. Mais aussi, je salue l'intervention de collègue Jean-Poëla. Vous savez, Monsieur J.S., le processus dans lequel nous nous retrouvons risque de se faire piéger par nous-mêmes et par le fait de mauvaise foi. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans une période électorale qui est successive, de par le calendrier trop chargé de la CENI, qu'on a constaté. À l'époque, d'ailleurs, comme l'a dit le collègue Mutundula, en plénière, il a été tué quand il évoquait cette surcharge et la faisabilité. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il est temps, et il faut le faire vite, que la CENI accepte d'harmoniser son calendrier par rapport aux contraintes qui sont d'ailleurs constitutionnelles, comme l'a évoqué le collègue Mutundula, qui imposent le recrutement ou l'enrôlement de nouveaux électeurs, de nouveaux majeurs. Parce que cela va impacter sur le fichier électoral et d'office. Ça pourrait impacter sur la suite des événements. Bon, moi, je ne suis jamais pour le glissement, comme on l'a dit, comme l'ont dit d'autres collègues. Tout est possible. Aujourd'hui, la CENI vient d'harmoniser les calendriers pour l'installation de nouvelles provinces en termes de la mise sur pied de l'institution au gouvernement provincial. Donc ça va jusqu'en octobre. La même CENI avait prévu les élections provinciales en octobre. Donc nous disons que nous y sommes, il faut faire rapidement. On n'a pas besoin d'un grand dialogue pour ça, comme l'a dit le collègue Toulouse. Juste harmoniser le calendrier, nous amener vers mi-2016, où on va régler cette affaire des élections.
Mais quel est le cadre par lequel tout cela doit être harmonisé? Parce qu'il y a une commission d'ailleurs qui commission ad hoc. Il y a un auditeur qui nous a laissé entendre qu'il y a même Kusa Badibangi, je ne sais pas, il a cité un fond qui se trouverait dans cette commission avec la CENI et les politiques. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est ce cadre-là ou c'est l'Assemblée nationale qui peut harmoniser ça avec la CENI, selon vous,
Honorable Jeune? Il y a un cadre, M. J.R., qui nous lie avec la CENI. Les collègues l'ont dit, la CENI devrait présenter son rapport à l'Assemblée nationale. Ça ferait l'objet d'un débat démocratique, citoyen, qui pouvait se sauver cette situation-là. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on y arrive, et dès qu'on aura ce débat-là, on harmonise avec la CENI, et on avance. Il faut éviter le dialogue politique avec les discussions où
merci beaucoup, honorable Bonne Tina Zabo, de la confiance que vous avez témoigné donc à cette émission Parole aux auditeurs, cadre d'échange et de débat citoyen. Adrien, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Adrien ?
Oui, bonjour, camarade.
Oui. Oui, allô ? Vous avez la parole, Adrien. Vous êtes à Kinshasa, dans le Bas-Congo. Vous allez Congo central. C'est ça, Congo central.
Oui, Congo central.
Voilà, votre point de vue.
Oui, mon point de vue, c'est-à-dire quoi? Je suis un peu étonné, et puis je suis tombé dans la confusion. Je ne comprends plus rien. Est-ce que cette demande de la révision du fichier électoral, ceci est concerné aussi pour les élections de députés provinciaux? Si oui, est-ce que... Je vais un peu demander à l'honorable Lutondo, là, si oui, cette demande de fichier est... les élections de députés provinciaux, je crois que il serait important de laisser que ces élections de députés provinciaux soient à la date prévue. Pourquoi? La raison première est que je crois que je suis l'honorable Mpoela, il connaît bien. Pour moi, ce n'était pas facile cette année le dépôt de candidature à la CENI. Alors, avec tout ce qu'on a pris comme temps pour le dépôt des candidatures et l'argent versé au compte du Trésor public de l'Écosse, moi je crois que ça ne serait plus important pour que cette demande de fichier électoral frappe aussi les élections des députés provinciales. Donc, je demande que ces élections soient. Et comme à l'avenir, on peut procéder à cette demande de fichier, peut-être pour les élections à venir. Mais pour. La période où nous sommes, donc je sais que la jeunesse aussi attend ces élections de députés provinciales. Mais je crois que en soi, j'ai un message à lancer à cette jeunesse. Et vous allez me permettre peut-être de le dire même à Lingala.
Oui.
Donc, ici 18 ans, ma ligne ça, biso. Parce que passe auto moni pour la dépôt à candidature à l'élection provinciale et de la qui passe. Donc, on écrit Bangote. Mais bah, ok, la biso mawa comme ça, bah, c'est là.
Voilà. Bah, malgré que c'est leur droit de la civique, je crois, de voter et d'élire, au fait, les gens qui ont le destin de ce pays. Voilà, c'est quand même important. Donc, c'est dans le droit, leur droit le plus légitime. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir appelé des Kinshasa. Sylvestre, vous êtes à Kindu. Bonjour, Sylvestre.
Bonjour, JR, et bonjour, l'honorable, surtout Kondouba.
Vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup, Monsieur JR, de m'avoir accordé la parole. Hein. Moi, je crois que nous sommes des intellectuels et qu'à un certain moment, nous devons éviter, n'est-ce pas, des sujets qui fâchent. Hein. Moi, je crois que l'honorable Lutundula comprend déjà l'ampleur, n'est-ce pas, du problème. Aujourd'hui, notre population, la population congolaise est fatiguée avec ces genres des choses. Pourquoi j'ai dit cela? parce que effectivement, depuis 2006, on avait organisé les élections provinciales. Du 2006 en 2015, voyez-vous, et le Sénat, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux doivent continuer à travailler jusqu'à quand? Parce que je viens d'entendre l'honorable Zoundouba qui dit, lui propose, hein, n'est-ce pas, que les élections provinciales puissent s'organiser en 2016 et que les 4-5 mois qui restent ici, qu'on donne à la CENI, n'est-ce pas, pour évidemment la révision du fichier électoral. Moi, je pense que s'il faudrait peut-être que la CENI puisse retoucher son calendrier, moi, je demanderais, n'est-ce pas, à la Commission électorale nationale indépendante de retoucher un petit peu légèrement une façon d'organiser.
Voilà, donc, comme l'ont souhaité vos prédécesseurs. Merci.
En fait, n'est-ce pas?
Voilà, merci beaucoup, Sylvestre. Alors, réaction, honorable Loutendoula.
Je vais d'abord répondre aux questions précises qui ont été soulevées. En ce qui concerne le cadre d'harmonisation, oui, le collègue, je le salue chaleureusement aussi, il a évoqué le débat que nous devons avoir pour servir de cadre. Je crois qu'il faut nuancer un peu. Dans la lecture que je fais de tests qui nous régissent, le contrôle que nous faisons est plus un contrôle de gestion qu'un contrôle, si vous voulez, porté sur les actes de direction du processus électoral, de gestion du processus électoral de la CENI. Nous contrôlons la gestion, si vous voulez, financière et patrimoniale. Je crois qu'il y a un cadre. La CENI elle-même a un cadre de concertation avec la société civile, les partis politiques, et elle a déjà utilisé ce cadre-là depuis les années antérieures. Je crois que dans ce cadre-là, on peut rapidement se retrouver, parce que les idées sont claires, le chef de l'État les a dégagées. J'ajouterai aussi que lorsque il m'a été donné d'échanger dans le cadre de la question orale avec débat, d'échanger avec le premier ministre Bouchard, qui honnêtement a donné des réponses qui situaient le problème, j'avais dit que la question était hautement politique. Et je pense que le président de la République, à travers les concertations, a rencontré cette préoccupation politique. Et il nous a rendu compte des conclusions, des éléments qu'il a retenus, des consultations qu'il a organisées. Il a dit, oui, il y a un problème de fichier, oui, il y a un problème de calendrier, oui, il y a un problème de sécurisation des élections, oui, il y a un problème, si vous voulez, de financement des élections. C'est pour ça que je dis que le dialogue n'est plus nécessaire. Si je faisais la politique fiction, parce que je ne suis pas chef de l'État, j'allais dire, voilà les éléments, je demande aux institutions qui sont concernées, la CENI, le gouvernement et éventuellement l'Assemblée nationale, de trouver des solutions assez rapidement. Et la CENI peut en ce moment-là procéder comme elle le fait habituellement pour dégager des consensus. Laissez-moi encore, la question de l'intervenant qui n'a pas des intellectuels. Non, il faut préciser les choses. Nous sommes des intellectuels parce que nous avons la capacité de comprendre, de raisonner et d'inventer. Ce que nous disons ici, c'est le travail des intellectuels. Il n'y a pas de question qui fâche. Nous devons être aux avant-postes de progrès de notre société. Et en la matière, il n'y a pas lieu de dire
Un dernier mot.
Nous n'avons pas besoin de dialogue. Le président a situé le problème. Que les institutions qui en sont compétentes puissent se saisir. On n'a pas besoin de dialogue, c'est là vers l'existement. Il y a une majorité qui gouverne, et bien la majorité gouverne et a la responsabilité sur ce qu'elle fait. Il faut respecter la Constitution. Voilà, c'est un problème important. Et de cette manière-là, nous ne détruirons pas en un jour cette œuvre grandiose qu'on a accomplie avec le président Kabila en matière de démocratie notamment.
Christophe Lutundula, vous êtes député national, en tout cas merci, député national de la majorité présidentielle, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt, peut-être prochainement dans un autre débat, pourquoi pas, un débat citoyen. Voilà, nous disons également merci à Paul Badaniam qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot Elamegi et Julie César Bongonda, une émission qui vous a été présentée par J.R. Longuembo qui l'a même coordonné sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain dans un autre débat.